Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Vous êtes là? Bienvenue chez nous, on s'apprêtait justement à donner le coup d'envoi de la 11e édition de Focus Store, 11e radio, 3e télé, parce que, comme vous vous en êtes peut-être rendu compte, si vous nous regardez, nous sommes filmés. Je vous rappelle rapidement le principe de l'émission, on critique les objets culturels à la mode en osant aller à contre-courant du discours dominant. Il n'est pas question d'être ici obligé de dire du mal, mais il n'est pas question non plus d'être obligé de la fermer et de dire du bien. Bref, ceci est un espace de liberté totale, profitez-en, pourvu que ça dure. Autour de la table, des spécialistes des sujets évoqués et des profanes, un joyeux mélange des genres de professionnels de la critique qui vous indiquent en bout de course que toute opinion est relative et qu'on vous invite au fond à construire la vôtre. Au générique, aujourd'hui, il y a les Spring Breakers du magazine Focus Vif, Laurent Raphaël, rédacteur-chef et le conducteur du van. Il y a Isaline Parisis, spécialiste du limbo en bord de mer et aussi spécialiste des bouquins. Il y a Olivier Van Varenberg, spécialiste de la BD, de polar, et de mauvais genre en général.
Je suis d'accord.
Et puis Nicolas Clément, faiseur de cocktails frelatés en chef et plutôt calé en quoi ? En ciné et en BD. On parle aujourd'hui du film Spring Breakers, de la série Hit and Miss et de l'album de Woodkid et enfin de la BD Last Man. C'est parti. Spring Breakers, c'est le nouveau film de Harmony Korine, cinéaste surdouée d'à peine 40 ans, l'un des seuls réalisateurs non danois à avoir souscrit au fameux mouvement Dogme 95 de Lars von Trier et Thomas Vinterberg, ce qui n'est pas forcément un gage de qualité, mais qui donne le ton. Harmony Korine, il est surtout connu pour avoir été le scénariste de Kids, le film choc des années 90, qui personnellement m'avait extrêmement traumatisé, film de Larry Clark. Spring Breakers, c'est le dernier long métrage qu'il a réalisé et celui qui devrait lui ouvrir les portes du grand public. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a détourné trois petites actrices labellisées Disney, Vanessa Hudgens, Selena Gomez et Ashley Benson, qui leur a fait porter des tout petits bikinis et surtout des flingues. À noter que la femme d'Harmony Korine joue la quatrième de la bande. Il s'agit donc d'un groupe de copines qui veut partir en Floride, célébrer la semaine de relâche des cours et qui s'adonne aux joies du spring break, c'est-à-dire boire, fumer, sniffer, s'enrouler des garçons, exhiber leur corps sur la plage. Seulement voilà, elles n'ont pas d'argent, mais comme elles n'ont pas froid aux yeux ni aux poumons, elles vont en trouver en braquant un fast-food, tout simplement. Les vacances débutent alors, le début des ennuis aussi, mais également l'aventure, la vraie, avec des gangsters locaux. Voici un tout petit morceau de ce film.
How are we gonna get enough money in time?
Alors moi, j'aurais deux mots pour décrire l'effet que ce film m'a fait violemment déplaisant. Et pas uniquement à cause de la musique de Skrillex, qui est quand même relativement insupportable. Je trouvais que ce film ne racontait rien d'autre que lui-même et sans proposer, comme pourtant je l'ai lu dans la presse, un portrait de génération, même avec une mise en scène très esthétisante et extrêmement bien montée, du vide, ça reste toujours du vide. Qu'en penses-tu, Nicolas Clément ?
Mais j'en pense plutôt du bien, on va dire. Mais d'abord, je crois que c'est peut-être important de recadrer un peu le film, parce que c'est vrai qu'il y a eu un buzz dernièrement autour de ce film qui est assez important et qui en fait une sorte de gros objet provoque et trash.
Subversif.
Oui, du fait aussi, je pense qu'il y a des... les fameuses icônes Disney, donc... Selena Gomez, Ashley Benson,
l'ex
et Vanessa Hudgens.
Justin Bieber.
Tout à fait. J'ai donc appris que les fans de Selena Gomez étaient des Selenators, par exemple.
Ah oui.
Et aussi, bon, c'est dû au fait que le film est un film très fluo, sex, drugs and guns, comme ça. Et je trouve qu'il faut un peu resituer, au-delà de un peu cette hype qu'il y a pour le moment autour du film, le fait qu'en fait, c'est un tout petit film indépendant. Je ne vais pas dire sans prétention, mais en tout cas, qui ne prétend pas non plus être plus que ce qu'il n'est, c'est-à-dire un petit film indé assez cohérent sur le fond et la forme, j'ai trouvé. Et finalement, c'est un film sur l'ennui, alors qu'on peut très bien ressentir en allant voir le film. Et ça peut être un problème que j'ai pas ressenti personnellement, ou en tout cas pas beaucoup.
Oui, parce qu'il y avait d'autres arguments à faire valoir, comme c'est vrai, poumons.
C'est vrai, mais
c'est ça. Qu'un homme.
C'est vrai, mais je trouve ça intéressant aussi dans le film, parce que c'est un film qui nous questionne aussi sur notre regard, quoi. C'est vrai que moi, j'ai pris plaisir à voir des filles à moitié nues et à voir toute cette débauche comme ça de couleurs et de fêtes, etc. Et en même temps, le film va plus loin que ça et un peu en deux temps. Je trouve que la scène qui est vraiment hyper emblématique du film, c'est justement le braquage de fast-food dont tu parlais.
Ouais, qui est suivi à travers la vitre de la voiture.
Ouais, voilà, mais qui est double en fait. Ouais. Hein. Donc en fait, on la voit d'abord de l'extérieur, un truc hyper virtuose en plan séquence, si je me souviens bien. Et on voit ça de manière très détachée, très virtuose, c'est très esthétisant. Voilà. Et puis plus loin dans le film, on va revenir sur cette scène et là, on va la vivre de l'intérieur. Et je trouve que c'est ça le mouvement du film finalement. C'est qu'on nous donne à voir de l'extérieur un truc très bling-bling. Et puis finalement, au fur et à mesure du film, on pénètre vraiment dans le propos.
Oui, parce que cette scène est extrêmement violente en fait.
Tout à fait. Ce qu'on ne ressent pas spécialement la première fois. Et je trouve ça très intéressant en fait. C'est un film qui pose la question un peu des limites qu'on est prêt à dépasser pour se sortir d'un certain marasme comme ça. Qui en l'occurrence, effectivement, ici, le marasme d'une génération, enfin le marasme de ces adolescentes. Et donc j'ai trouvé que c'était une sorte de mélange entre Sofia Coppola et Greg Araki.
Ah ouais.
Donc il y a la mélancolie de Virgin Suicide et en même temps le côté trash de Doom Generation. Et je trouve ça très bien en fait. Voilà.
Ok Olivier.
J'ai envie d'être clair. C'est à moi d'attaquer là-dessus. Je crois qu'à la fois je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec toi Myriam. Donc moi j'ai vraiment un problème avec ce film. Donc clairement il y a des qualités cinématographiques dedans.
Qualité de montage je trouve, ce côté lancinant.
Voilà. Le bruit du flingue qu'on charge qui revient en permanence dans le film, il y a des choses très bien faites.
Oui, c'est très répétitif.
Hein. Oui.
Voilà.
Oui.
On sent qu'il vient aussi de l'univers du clip, ce genre de choses. Ce qui me gêne dans le film, c'est justement son propos. Moi, je le lis comme une dénonciation d'un certain rêve américain. Mais pour faire cette dénonciation, il utilise l'imagerie de ce qu'il veut dénoncer. C'est comme les gens qui... des mouvements anti-pub.
Les anti-pub, ouais.
Qui utilisent la pub pour dénoncer la pub. Je trouve qu'on se retrouve exactement dans le même schéma. Et je trouve ça très gênant parce que clairement, quand j'étais le voir en salle hier midi, je pense que le public qui est venu n'a pas compris ce film. Je pense qu'ils y ont été et qu'ils ont sorti en disant « Ouais, j'ai
excellent.
Vu... Oh, Vanessa Jones, elle est bonne. »
C'est un argument suffisant pour que juger que
on
le
en
film
a parlé.
Ne soit
ben,
pas...
Un peu parce que je pense qu'il est responsable de ça. Parce que toute l'imagerie, toute la hype qui est faite autour du film, elle est voulue. On joue sur l'imagerie des...
Ça participe un peu de la démonstration, justement, d'utiliser les codes, la pornographie de cette génération, de cette jeunesse qui s'exhibe, tous les codes MTV et Disney qui sont brassés et distillés dans un... ce que je trouve aussi un alcool fort, finalement. C'est pas simplement la récupération. J'ai l'impression que c'est comme un bonbon qu'on nous offre. Là où c'est récupéré, le bonbon, après, on te le fait payer. Ici, après, c'est le bonbon, on te l'offre pour te violer quelque part. On te viole les yeux.
Ah
et
oui,
donc,
ça...
il y a quelque chose de très fort.
Et
c'est
oreilles.
Pas simplement sur un angle commercial pour te vendre
mais c'est vraiment, j'ai ressenti avec ce film ce que j'ai pu ressentir avec Scarface, c'est-à-dire un film qui ne va pas... qui ne réussit pas sa démarche, parce que Scarface, à la base, c'est plutôt l'histoire d'une déchéance d'un gangster. Non, mais j'assume. Si on peut dire du mal, on l'a dit. Tout à fait, voilà, il reprend des repères qu'on a tous, mais... Enfin, j'espère qu'un adolescent peut voir Scarface comme un film qui, a priori, vous conseille de ne pas rentrer dans la criminalité parce que vous mourrez à 27 ans, tué par votre
copain. Si tu as vu certains striptease avec des fans de Scarface,
voilà,
c'est pas certain.
Voilà, mais par rapport à la vacuité du propos, tu le disais, il y a quelque chose de vide là-dedans, mais ça utilise le vide pendant une heure. Il y a énormément de scènes très clipesques, d'ambiance gangsta rap, de scènes pop.
Il joue sur l'attraction quasiment primitive que ce genre de scène déclenche.
Mais c'est là la perversité et du propos et de la manière. Je ne sais pas ce qu'une femme en pense, mais...
Je trouve qu'un film n'est pas que... Le film n'est pas que dénonciation.
Non, moi, je trouve qu'il n'est pas dénonciation.
Quand on regarde ce qu'il a fait, ce n'est pas une dénonciation d'un truc. C'est juste, si on veut une réflexion, au plus, quoi. Mais c'est une plongée dans un univers comme ça qui, effectivement, je trouve normal qu'il joue avec les codes. Parce que ça nous met dans une position super ambiguë.
Il nous met dans un état où il le dit, je reprends les termes. Ici, c'est vraiment cool. Ici, c'est la... Enfin, voilà, le rêve américain, c'est bikini, bière et gros cul. On est censé se découvrir. J'ai l'impression qu'il dénonce ce qu'est... le vide de cette fête d'étudiants.
Moi, j'ai pas vu ça du tout.
Et c'est un, voilà, c'est un portrait comme ça, d'une génération un peu désespérée qui comble ce vide comme elle peut, et puis qui finalement se rend compte, elle est renvoyée à son blette pour deux des nanas, ou à un futur complètement
un peu grotesque, déglingué. Excuse, mais la fin est un peu... Enfin, on va pas la raconter. Je trouve que ça fait très grand guignolesque. Il y a cette scène incroyable du piano, il y a cette reprise de Britney Spears jouée au piano par James Franco, elle joue avec... Enfin, il faut
ça,
voir cette
scène. Génial.
Incroyable. Ça, c'est vraiment génial. Incroyable.
Là,
kitsch, on rentre dans l'art, dans la poésie.
Il reste toujours à la lisière, mais il arrive à maîtriser le truc pour que ça paraisse pas kitsch. Or, ça pourrait être vraiment complètement à côté
de la plaque. Temps, il... Bon, cette scène de fin, je la trouve pas crédible, simplement, dans le propos. Autant la tension fonctionne quand elle se retrouve à bikini à quatre dans une ambiance de gangster black. C'est vraiment très tendu, c'est violent. On comprend pas comment des gamines de 17 ans se retrouvent dans cette ambiance-là. Autant c'est crédible, autant petit à petit, le film va avancer sur une sorte de cauchemar pop presque à la Tarantino, qui n'a pas trop de sens, je trouve, dans...
Ouais, connaissant le bonhomme, ça paraît quand même un peu... Ça paraît très bizarre que le gars ait décidé du jour au lendemain, lui qui a fait Gumo, des films quand même bien trash, qui a un pédigré solide dans ce genre, tout d'un coup, il décide de faire un film avec des recettes commerciales. Donc, je pense, sur la démarche, il y a une sincérité du bonhomme. Alors, le résultat, ben, c'est déjà intéressant, qui suscite... un débat,
oui,
mais je crois que c'est ça qu'il a cherché à produire.
C'est un mauvais film, mais...
ouais, il m'a posé une gêne, dans la démarche et dans la manière de le faire. Je trouve qu'il y a une perversité un peu
gênante. Je crois qu'il est très roublard sur ce coup-là. Mm-hmm. Il utilise les codes et il dit, regardez, vous allez tomber dans le panneau. Et en effet, certains vont tomber dans le panneau, d'autres pas, vont y trouver une critique derrière.
Ils Isaline, petite fleur des champs romantique et délicate, tu m'as dit que tu avais aimé ce film, alors ça m'étonne quand même.
J'ai bien aimé le film. C'est vrai que Nico parle de plongée, je pense que c'est exactement ça. C'est un film super immersif, quoi. Dès que les premières images arrivent, il y a un travail des couleurs, cette espèce de filtre rouge, fluo, jaune, fluo, l'espèce de travail sur le grain aussi, des moments où la caméra passe en espèce de vidéosurveillance, comme ça, il y a des déformations. Un travail du son aussi, tu l'as dit, un travail des gros plans, quoi. Il a une manière de filmer, je sais pas, les vernis, les cheveux décolorés, les imprimés léopard, enfin, il y a un truc assez physique, assez palpable, assez fascinant. Je trouve que le propos du film, c'est complètement ça, c'est cette plongée dans le Spring Break. Alors, qu'est-ce que c'est le Spring Break? Ben, c'est cette espèce d'hallucination. Hein, les filles le disent tout le temps, quoi. Elles ont l'impression d'être dans un rêve qui n'aurait pas de fin, etc. Et on est complètement là-dedans. Je trouve que c'est un film qui nous met vraiment dans cette espèce de flottement, d'irréalité, quoi. Alors, il y a deux choses. Il y a la Floride. Je trouve qu'il filme super bien la Floride, cette espèce de moment où il pose sa caméra dans des parkings un peu désaffectés, comme ça, cette espèce de langueur, de désœuvrement dans les piscines, une espèce de solitude énorme aussi.
Ben voilà, c'est absolument. Il y a la solitude, donc je trouve qu'il y a un discours.
Mais ça, c'est fascinant, mais il y a aussi, je trouve, quelque chose au niveau de la construction. Je trouve qu'on ne l'a pas dit assez, une construction en boucle comme ça. Des espèces de micro-scènes qui sont tout le temps en train d'anticiper ce qui va arriver, annonciatrice. Des espèces de bribes sonores de dialogue qui reviennent de manière complètement obsédante et qui sont comme ça dans un... Enfin, moi, j'étais vraiment hypnotisée par ça.
C'est très, très bien.
C'est vachement bien fait, quoi.
Et bon, les personnages maintenant, ben, moi, je les ai trouvés complètement épais, inversement, proportionnellement à leur épaisseur de bonnet. Je trouve que ces femmes sont complètement... Enfin, ces filles sont complètement interchangeables. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a gênée en tant que fille de voir ça. Je trouve que c'est vraiment des solides cruches. Et
ça m'a vraiment peiné pour elles. La teenager américaine n'en ressort pas grandi, ça c'est sûr.
Non, et même les comédiennes. Enfin, je vois pas très bien ce qu'elles vont pouvoir faire.
Ils détournent un peu toutes les images parce que même le gros caïd bling bling James Franco qui est terrible dans le film. À un moment, il est en mode soumission par rapport à ces deux filles. Donc, il retourne systématiquement un peu tous les...
Elles sont assez fortes.
Et il était temps, quoi.
Et elles ne sont pas si interchangeables que ça, excuse-moi, par rapport... Justement, je le trouve très politiquement correct sur la manière dont il a utilisé ces actrices, qu'il a utilisées pour justement créer la hype et un déblocage par rapport à son film. Il faut se rendre compte que Selena Gomez, qui est encore dans l'univers Disney... On en parlait, c'est probablement des questions de contrat. C'est la seule qu'on ne voit pas vraiment sniffer à la caméra, on ne la voit pas tellement à poil.
Elle prend le bus.
Voilà, elle s'appelle Face, exactement. Ouais. Ça reste l'image un peu virginale de la jeune fille qui va quand même reprendre ses esprits avant de tomber dans l'enfer. Donc, il est provocateur en ne l'étant pas, je trouve.
Oui, et Harmony Korine n'a pas filmé sa femme nue, par exemple.
Je me demande pas si on ne la voit pas nue, et d'ailleurs bien nue. Il la filme d'ailleurs très bien. Très...
Avant qu'elle se fasse arrêter, il y a vraiment une scène.
Oui,
où,
c'est la seule qu'on voit la puissance.
J'ai peut-être dû dormir à ce moment-là, parce que je me suis violemment emmerdée. Oui.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux nanas qui s'en vont en plein cours de film, et au moment où elles sont dans le bus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le seul moment où les images sont réelles, quoi. Enfin, où il n'y a pas ces filtres de couleurs, etc. Et je trouve que c'est exactement ça, ce film, cette espèce de plongée... hypnotique et irréel, quoi.
Ouais. On est quand même tous d'accord, on prend pas de plaisir à regarder ça. Enfin, si, toi, t'as pris du plaisir.
Je trouve que ça questionne justement le plaisir que tu peux éventuellement prendre à regarder ça tout en étant. C'est un peu comme ces émissions MTV où les nanas dansaient autour de la piscine.
C'est ça que j'ai
vu. On montre ça. Oui, voilà, c'est ça.
The grind.
Tu vois, c'est le parfait contre-exemple. Ça ressemble à ça.
Et en même temps, on gratte le vernis après, quoi.
Bah, ça ressemble à ça et on le dénonce. Donc, où se situe.
C'est ça qui est intéressant, je trouve.
Et donc, ça crée un malaise.
Ça ressemble à ça, mais va voir au-delà de l'écran ce qu'il y a derrière et comment ça se passe, et le néant, l'ennui de ces personnages qui ont l'air d'être des espèces de sommités du cool et floridiens, mais qui en fait s'explosent et s'emmerdent et se tirent dans les pattes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici, il montre ça. Il dépasse les apparences.
Ok, un petit cocorico pour terminer. Le chef-op, apparemment, c'était un Belge.
Oui, tout à fait.
Et il travaillait RTL TVI. Comme quoi, Jean-Michel Zeka mène à tout.
On verra peut-être dans un film d'Harmony Corinne.
Benoît de Vie, c'est ça. On va lui donner une petite note. Moi, je lui mets 5 parce que j'ai trouvé ça très pénible, mais je reconnais quand même des qualités esthétiques au film.
Moi, je mets 7. C'est un excellent petit film indépendant.
C'est marrant parce que finalement, on n'est pas d'accord, mais on a à peu près les mêmes cotes. Moi, je mettrais 6. Parce qu'il me pose un souci, pas du tout dans ses qualités esthétiques et cinématographiques, mais éthiquement, oui. Disons, osons le mot.
Moi, 7 pour l'immersion, malgré les deux ados qui mangeaient du pop-corn derrière moi.
Ah, c'est une forme d'immersion aussi.
Moi, 7. Bon, 7.
Ok, et bien, ton focus, Jean-François Pleguerre, tu as mis 3 étoiles sur 5 et parle de démonstration de vacuité à la saveur particulièrement acide. Et voilà, je trouve que c'est extrêmement bien dit. C'était donc Spring Breakers d'Harmony Korine. Et on va rester dans la galaxie d'Harmony Korine pour la série de la semaine. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Hit and Miss, c'est son nom, sort chez nous en DVD début avril. C'est une série anglaise et comme souvent avec les séries anglaises, c'est d'une grande audace. Hit and Miss met en scène une tueuse à gages transsexuelle non opérée, c'est important, Mia, qui apprend que son ex-compagne est morte d'un cancer et qu'elle lui a laissé un fils de 11 ans, dont elle ignorait jusqu'alors l'existence. Alors elle décide de s'installer à la campagne dans la maison qu'il occupe avec son grand frère et ses deux sœurs et de s'occuper de la fratrie tout en poursuivant ses activités meurtrières en parallèle. Voici quelques images pour vous planter le décor.
So, you were a man, but now you're a woman.
Yeah.
So you're gay?
No, straight. But I'm a woman, trapped inside a man's body.
L'ambiance est électrique dans la maison. Les plus grands n'ont pas du tout envie de l'avoir comme tutrice et ils sont aussi très mal à l'aise de vivre avec une femme qui a été un homme. On n'est vraiment pas dans une comédie, pas vraiment dans une saga familiale ni dans un thriller. C'est un genre complètement à part. C'est noir de noir, il n'y a vraiment plus d'espoir nulle part. C'est radical, c'est assez violent, assez dur. Et j'ai trouvé ça très, très passionnant, incroyablement bien incarné par Chloé Sevigny qui joue Mia. Et c'est là qu'on rejoint Harmony Korine puisqu'elle a été sa compagne, qu'elle a joué dans quelques-uns de ses films et qu'elle a été l'un des personnages principaux du fameux Kids de Larry Clark. Comment tu l'as trouvé, l'amie Chloé, dans cette série, Laurent ?
C'est bluffante, hein, un mélange de glamour et de muscles secs. Elle arrive à faire douter de l'identité, de la réelle identité sexuelle du personnage. La série, je trouve, le pitch est assez improbable au départ, parce que c'est un peu casse-gueule. Ce trans tueur à gages qui essaye de se rabibocher avec cette famille et tout, donc c'est un peu bizarre. Mais très vite, je trouve qu'on entre dans l'univers. Bon, c'est une série assez courte, 6 épisodes. Et ce que je trouve assez génial, c'est le mélange du réalisme anglais, un peu glauque, qu'on retrouve aussi dans Luther. D'ailleurs, par moments, les deux séries auraient pu se croiser. Luther aurait pu être en train de traquer le personnage de Mia. Et en même temps, il y a des petits côtés un peu fantastiques avec la petite fille qui correspond avec sa mère, avec des petits moments comme ça où sur la route, il y a un petit côté indé américain et la musique country. Donc, il y a un petit mélange.
Super beau.
Voilà, qui allège quand même ce côté hyper dark de la série, qui est entièrement porté évidemment par Chloé Sevigny, qui est assez bluffante, comme je disais. Moi, je trouve que c'est vraiment une réussite. De nouveau, comme tu disais, les Anglais arrivent avec quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on a déjà vu et qui est un portrait de famille, mais aussi en même temps des questionnements assez profonds sur ce qu'est être différent, comment se faire accepter en tant qu'autre, puisqu'il y a une histoire sentimentale en parallèle qui est très complexe. Et je trouve que le mal-être qu'elle ressent, eh bien, il se traduit très bien dans les différents chapitres, les différentes facettes de la série.
Toi, Isaline, par contre, c'est Ça te va plus?
Bah, j'ai pas trouvé, mais non, je trouve que c'est un espèce d'étrange mélange qui fonctionne pas trop entre, je sais pas, une espèce de chronique sociale à la Ken Loach, très anglaise effectivement, et un film d'Almodovar, quoi. Et ça fonctionne pas, quoi. Oui, c'est exactement ça.
Non.
Oui, le questionnement, voilà, sur la transsexualité. Alors je trouve que ça aurait suffi, quoi. Voilà, une bonne série sur qu'est-ce que c'est la transsexualité, qu'est-ce que ça charrie comme fantasme, enfin qu'est-ce que ça veut dire.
Mais je trouve qu'il n'arrive pas toujours à mêler les deux types d'intrigues.
Enfin, je pense que ça suffisait, quoi. Alors là-dessus, elle est tueuse en série, enfin tueur à gage. Elle est père de famille, grande sœur, enfin amoureuse. Alors c'est bon, je crois qu'à un moment
elle
donné,
toutes les cartes dans la vie, quoi.
Elle est absolument de tous les plans. Il y a même un moment où sa voisine accouche, alors c'est elle qui arrive et qui, enfin, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, je trouve. Et je trouve, enfin, c'est quand même assez hallucinant d'imaginer comme une série qui, justement, sur un voilà un tueur à gage, transsexuel, père de famille, etc., peut être aussi prévisible, quoi. Ça, c'est quand même un mystère pour moi. Oui, je trouve que c'est très prévisible et avec des côtés quand même sous couvert de la politiquement correcte, très moralisateur, très gentillet. Elle va apprendre à son fils à se battre, elle va.
Tu trouves ça politiquement correct d'apprendre à son fils à casser des gueules?
Oui, parce que voilà, elle prend un peu la place que voilà sans doute qu'elle a jamais eu dans sa vie, et puis elle va.
Elle prend la place dans les histoires. Parce qu'elle est le père alors qu'elle est une femme, donc il y a toujours.
Et puis dans la vie, il faut pas faire des mensonges parce que sinon effectivement dans les histoires d'amour, ça fonctionne pas. Cette histoire d'amour est complètement, je trouve, plate et déjà vue. 10 000 fois. Quelqu'un réagisse, s'il vous plaît.
Disons que du point de vue de l'homme, on comprend que ce soit une situation extrêmement compliquée.
Alors, t'interromps tout de suite. Justement, la situation compliquée, le mec, pour comprendre, il prend quand même un magazine porno avec un mec en bas et un magazine avec un buste de fille.
Alors, il met là la question.
Non, mais il faut quand même imaginer la situation de ce mec qui vit dans sa cambrouse et qui se retrouve avec sans doute ce qu'il y a de plus extrême en termes de questionnement identitaire. Il y a de quoi être perturbé et d'essayer de se faire une représentation.
Ça, je suis d'accord, c'est un peu maladroit ce côté trop facile.
Oui, mais tout n'est pas parfait, mais il y a quand même, sur le fond, il y a quand même des choses gentilles. Je ne sais pas, quand elle retourne, ou il retourne voir sa famille d'origine. Voilà, elle retourne voir sa famille d'origine et tout.
C'est atroce.
C'est quand même, c'est super dark, quoi. C'est violent, c'est pas.
Alors, le questionnement du gamin aussi, c'est quand même c'est assez lourd. Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est ma mère? Comment je me situe par rapport à ça?
Non, mais c'est des éléments qui... Moi, je suis assez d'accord avec Isaline, en fait. Je trouve qu'on part d'un truc complètement improbable pour aller vers un truc qui n'est pas développé, en fait. Je trouve que tout est là dans le premier épisode. Et le gamin, ses questionnements sont là depuis le début. C'est vrai que Chloé Sevigny est assez géniale. Et elle dégage une sorte de trouble transgenre comme ça qui est, je trouve, pas exploité en fait par après. Et moi, en fait, après, je m'emmerde vachement, quoi. La campagne anglaise est très belle, quoi. Et je trouve que toute la partie tueur à gage, on n'y croit pas une seule seconde. La première scène du tout premier épisode, elle tue un gars dans un parking forcément désert, là. Elle est dans une sorte de silhouette noire avec une capuche sur la tête. Enfin, c'est un cliché pas possible. Et alors, elle rentre dans sa voiture et elle se met du lipstick. Ouais. Et alors là, on se dit, attention, signaux clignotants, elle est un peu masculine parce qu'elle est violente, mais elle est un peu féminine parce qu'elle met du rouge à lèvres. Et toute la série est résumée, dans cette scène et j'ai l'impression d'avoir rien vu d'autre par après. En fait.
Et les scènes de meurtre ne sont pas du tout crédibles, quoi.
Mais parce que c'est pas le jeu du film.
Non,
enfin,
Parce que l'homme, c'est le tueur, quoi. C'est son passé et qu'il est obligé de continuer à assumer parce qu'il y a un lien avec son commanditaire et donc qu'elle doit continuer, mais petit à petit elle glisse de plus en plus vers une volonté d'aller vers sa féminité, vers autre chose. Elle a du mal à combiner les deux.
Elle fait ce job parce que c'est bien payé, parce qu'elle veut se faire opérer. Et donc, elle a un pénis, en fait, pendant toute la série, qui est une prothèse.
Qui n'est pas cachée.
On le voit.
Il faut qu'on comprenne le concept relativement vite. Donc, voilà, il manque kiki.
Oui, mais on le voit beaucoup, même quand on a compris le concept.
Il le répète à chaque fois.
Elle ne va pas très loin. C'est comme si elle se souvenait chaque fois qu'elle est trans dans sa douche. C'est toujours les seules scènes où tout à coup.
D'accord. Tout tourne quand même autour de. Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Qu'est-ce que je dois inculquer à mes enfants? Comment je dois me positionner par rapport à mes parents, par rapport à moi-même?
Et là, les questions sont quand même assez fouillées. Par rapport aux enfants, c'est des questions assez trash et directes. Et tous les enfants de la famille, à tous les âges, ils sont tous questionnés par rapport à ça, avec quand même une certaine tolérance au bout du compte, malgré tout. Mais je trouve ça assez fouillé pour une série grand public d'une chaîne anglaise.
Ce qui m'a bien plu, c'est presque ce qui t'a embêté. Moi, je suis d'accord qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a des manques de rythme, il y a parfois ça s'étiole un peu dans les épisodes, mais quand vous m'avez raconté le pitch de la série qu'on devait voir, une transsexuelle jouée par Chloé Sevigny qui est tueuse à gages, Je me faisais une image d'un truc soit complètement délirant, presque drôle, comme, je sais pas, Weeds ou des choses comme ça, on peut jouer avec des codes.
Ouais, un truc,
bah, pulp, un peu, voilà, ouais, très pulp. Ouais. Et tu te retrouves dans une chronique sociale quand même sur l'Angleterre profonde, parce qu'il y a ce côté quand même très quart-mondiste du monde dans lequel ils sont, milieu des fermes, la tension entre eux, dans quelque chose auquel tu ne t'attends pas du tout. Et j'aimais bien la démarche très courageuse, parce qu'ils ne font pas... Tu fais pas un pacte avec ça, quoi. C'est...
Voilà, bah, d'ailleurs, voilà, j'ai la preuve, ça n'a
Est-ce
pas marché.
Y a
et il n'y a pas de deuxième saison.
Ah bah là, je suis déçu, tu m'apprends quelque chose, qu'à la fin, je finis quand même sur...
Mais oui, sur un gros questionnement.
Et donc, ça se finit comme ça.
Mais oui.
Quoi, c'est... Si ça n'a pas marché, c'est que c'est réussi, alors.
Non, non,
ça n'a pas marché, donc c'est vraiment que c'est bien.
En tout cas, il ne tire aucune des ficelles pour en faire un succès. Il reste... Parce que Paul Abbott, celui qui produit, avait fait déjà auparavant des séries comme Shameless, qui sont très... Voilà, qui sont très chroniques sociales, des choses assez dures, assez profondes. Et il reste dans ce créneau-là qui est, entre guillemets, courageux, parce que c'est pas Lost, quoi. C'est sûr que tu t'amuses.
Oui, bien sûr, oui.
Mais en entendant le pitch, je m'attendais presque à voir un truc, waouh, on va s'éclater, ça va être drôle. Surtout l'histoire de Chloé Sevigny, je ne sais pas si on l'a bien dit ici, il y a quand même quelque chose toujours avec le kiki autour de Chloé Sevigny. Je trouve ça très courageux et très couillu, c'est le terme de le dire, de revenir avec un rôle de transsexuel dans une série, là où en gros, beaucoup du grand public l'avait laissé dans une fameuse scène de véritable fellation, dans le film de...
Brown Bunny, de, voilà, Vincent,
de Brown
Gallo.
Bunny, de Vincent Gallo.
On en revient toujours à la bite. Hein.
Mais voilà, elle tourne, et je trouve qu'elle est à la fois très courageuse et très maligne d'oser... Ce genre de clin d'œil et ce genre de choses, c'est une actrice vraiment intéressante.
J'ai le sentiment que dans le film, cette bite en plastique qu'on voit,
on voit
à longueur,
je suis d'accord.
Ça peu importe à la limite. Quoi.
Je ne dois pas. Moi, j'ai cru en tout cas. Hein.
Quand elle se colle dedans, tu vois que non. Quoi.
Mais on la voit à longueur d'épisode et j'ai l'impression qu'on nous dit « Regardez comme c'est crédible ce qu'on vous montre ». Alors que tout l'aspect tueur en série, moi, j'y crois pas une seule seconde. Donc, je trouve qu'il suffit pas de montrer des organes génitaux pour dire « Oh, attention, notre série, elle est réaliste, elle est crédible. »
Il y a un petit côté artificiel dans cette série, mais j'ai l'impression qu'il est un peu assumé, je trouve. Dans le mélange des genres, parfois un peu plus que bigarré, parfois un peu incompatible. Mais j'ai l'impression que c'est assumé, qu'il y a une espèce de quatrième degré là derrière à vouloir mettre ces trucs-là en parallèle.
C'est du cartoon.
Oui, c'est ça, ça va. Et que c'est du coup forcer le trait, le fait de montrer sans doute, la montrer à tout bout de champ, c'est aussi pour marquer davantage et être dans cet extrême.
Ceci pour nous rappeler qu'elle est censée être intersexuelle parce que quand même Chloé Sevigny dégage une sensualité... quand même forte. Donc de temps en temps répéter.
Ça, je trouve que c'est quand même assez étonnant.
Mais je trouve que ces scènes-là, j'ai l'impression que la série nous dit plus. On a plus à vous montrer qu'à vous dire finalement. Bah, c'est ce que ces scènes-là m'ont laissé comme sans être prude, machin, ça ni touche et tout. Hein. Je veux dire, ça me dérange pas de voir une bite en plastique.
Ouais,
mais
Non,
mais c'est vrai. Mais j'ai un peu l'impression de. On vous montre des choses, mais j'ai l'impression que derrière, on ne vous dit pas grand-chose. Enfin, voilà.
Faudrait pas qu'on caricature ce qu'est la série. On voit pas la bite en plastique de Chloé Sevigny du début à la fin.
Oui, oui,
on nous fait des rappels pour nous rappeler.
Disons qu'on la voit au moins une fois par épisode, et j'imagine que
ça n'est pas exhibitionniste par rapport à ça.
Ils ont une scène horrible où elle a un tuyau dans l'urètre et qu'on lui. C'est affreux. Mais il paraît que ça a été très très dur à jouer pour elle. Racontait dans une interview qu'on devait la raser tous les matins, lui coller sa prothèse, puis la peindre, la maquiller, et qu'elle se sentait plus qu'à poil, encore plus que si elle avait été vraiment nue, et qu'elle pleurait, et qu'elle avait elle-même des troubles de l'identité en rentrant chez elle. Donc voilà, grosse performance en tout cas. Ben voilà, moi je vais lui donner quand même 8 sur 10 à cette série.
Je vais mettre 4 zizi en plastique sur 10.
Je ne mettrais pas zizi en plastique, je mettrais juste un petit 7. Moi.
5.
7.
On parlait donc de Hit and Miss, première et dernière saison, sur Sky Atlantic avec Chloé Sevigny. Woodkid, Johan Lemoine pour l'état civil. Il est français, il chante en anglais, c'est l'ami des hipsters. Il vient de publier son premier album. Que voici, après avoir longtemps réalisé des clips pour les autres, The Golden Age est particulièrement ambitieux et pour être la BO d'un film, une grande épopée épique ou un péplum.
Une
en
série,
tout cas, ouais.
Par exemple.
Oui. Game of Thrones.
Par exemple.
Un clin d'œil. un truc avec des chars, avec des mecs torse nus, avec des lances. En tout cas, c'est
et
un. Oui, c'est ça. Mais c'est un univers très très visuel, ce qui est plutôt logique quand on connaît le parcours du bonhomme. Il y a une provision de trompettes, de cordes, de chasse, de trombones, une grosse caisse qui imprime à ses chansons un rythme très aventureux. Le tout étant contrebalancé par une voix assez fragile, une jolie voix, je trouve, à la Anthony and the Johnsons. Je sais qu'Olivier n'est pas d'accord. Voici en tout cas de quoi vous faire une idée avec un extrait du single Iron.
« ocean didn't cast away her innocence is burning in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am.
Alors moi, j'ai plutôt envie de défendre ce disque. J'imagine que comme une partie de la critique branchouille, belge en particulier, vous allez descendre, je n'en doute pas. En tout cas, les rageux se déchaînent sur Internet, hein, sur Woodkid.
Je ne prétendrai pas faire partie de la culture branchée et branchouille, donc ça ne me permettrait pas.
Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Peut-être allez-vous pouvoir m'expliquer pourquoi, Isaline.
Pourquoi tant d'amour aussi, peut-être.
Pas de la haine, mais un peu de désintérêt peut-être. Moi, j'ai mis cet album-là, j'avais l'impression d'un grand débarquement dans mon salon avec des cuivres et des cloches et des, ouais, un truc très grandiloquent. Alors, il y a aussi les titres de ces chansons qui sont pas rien, quoi. Je veux dire, c'est la conquête des espaces, Golden Age, Stabat Mater quand même, qui est un morceau absolument épouvantable.
Un morceau incroyable.
Enfin voilà, je trouve que, et alors avec ce côté un peu tribal, en fait c'est un album qui a sans doute la prétention de nous emmener loin, je crois, qui moi m'a pas vraiment voilà, fait décoller ou ressentir des choses, enfin, ça n'a pas provoqué beaucoup de choses en moi, alors que je trouve que oui, je peux dire qu'il y a une puissance, un univers sans doute qui ressemble d'ailleurs beaucoup à ceux de ces clips, hein, un univers un peu comme ça, noir et blanc, apocalyptique, très glacé, un peu graphique.
Avec des chevaux.
Et voilà, mais ça, personnellement ça ne m'a pas emmené très loin.
Bon, Olivier, toi, je crois même que tu n'aimes pas la voix de Johan Lemoine.
Bon, basiquement, c'est pas de sa faute, j'ai un problème avec sa voix. Voilà. Je trouve que sa voix grasse un peu monocorde en permanence, où il n'y a jamais d'aigu qui vient dedans. C'est la même tonalité, je trouve, sur ces 13 ou 14 morceaux.
Mais elle est quand même un peu dissonante avec justement ses instrumentations.
Oui, elle reste la même tout le temps. Il n'y a pas d'émotion qui vient s'imprimer dans sa voix.
Effectivement, le comparer avec Anthony et que. Voilà, il n'y a pas de comparaison.
C'est pas la porte de la fragilité. Mais, quoi,
indépendamment de sa voix, il y a quand même quelque chose d'incroyablement pompeux dans cet album. De lourd, de lourdingue, de premier degré pour un type qui a 30 ans, qui a sorti deux hippies avant, dont c'est le premier album, indépendamment de l'avalanche de name dropping qu'on va faire autour de Woodkid dans quelques minutes autour de cette table. L'album en lui-même, ça n'est que de la pop. Et on en fait la BO de 2013, quelque chose de très important. J'ai pas ressenti un peu comme Isaline.
Mais il est desservi par les autres, par ce qu'il entoure.
Mais par ce qu'il a fait aussi, par son statut. Il vit à New York, le côté, comme tu disais, hipster.
Il a fait l'équipe de Lana Del Rey.
Voilà, c'est ça, il faut voir le parcours de.
Et je pense que c'est ce qui séduit certains qui, du coup, le défendent bec et ongles. Et ce qui agace d'autres aussi, c'est que finalement, on ne voit pas le projet musical à lui tout seul. On voit aussi tout ce qu'il y a derrière. Exactement. Et on est un peu intoxiqué par ça. J'ai l'impression que si on ne voyait que le projet, le résultat, on serait peut-être plus nuancé, d'une bonne et d'une moins bonne façon.
On est pollué en bien ou en mal par tout ce qu'il y a autour de Woodkid. C'est ça qui est un peu gênant.
Donc, il a fait des clips pour Katy Perry.
En fait, il avait commencé, si je me souviens bien, avec Besson. Il avait travaillé sur les Minimoys. Hein, j'avais noté. Ouais. Donc, il est passé par Katy Perry, les Minimoys, par Katy Perry, par Taylor Swift, par Lana Del Rey, Rihanna. Il a été produit, il y a des sons produits par David LaChapelle, donc c'est vraiment le sommet de la hype et de la culture américaine pop qui fonctionne. En soi, c'est pas critiquable, ses clips sont remarquables, ça fonctionne. Mais on a fait un buzz autour de cette chose et ça a pris une prétention qui devient prétentieuse en l'écoutant, quoi, qui devient lourd, du symphonique tout le temps. Enfin, tu parlais de Stabat Mater.
Jean-Michel Jarre des années 2010.
Mais oui, c'est tout à fait.
Il y a un morceau Shadows instrumental. Quand on l'écoute, on pourrait en effet se retrouver dans l'univers Jean-Michel Jarre. Mais moi, j'ai envie de le sauver malgré tout, parce que je trouve qu'il y a une cohérence dans l'univers à la fois graphique. Et c'est un peu. Et c'est pour ça que je trouve qu'il reflète assez bien notre époque. C'est dans la manière d'englober le tout, de travailler dans une espèce d'esprit collectif avec des copains. C'est même pas des gens qu'on va chercher parce qu'on les apprécie, c'est d'abord des amis. C'est un peu génération Photoshop, comme ça le gars retravaille tout, alors ça paraît un peu trop léché.
Mais là,
visuellement,
il y a la légende du hipster qui vient derrière. Ce type a cartonné parce que Iron, ça a été son premier morceau, son premier hippie, parce qu'il avait beaucoup d'amis. Ça a été la BO du jeu Assassin's Creed.
Mais c'est typiquement contemporain,
qui est la pub de Dior. Et donc, c'est ça qui a fait monter la sauce et qui en fait quelque chose que finalement, ça n'est peut-être pas, mais c'est pas de sa faute, entre guillemets.
Esthétisant, qui peut être agaçant et qui peut faire passer l'entreprise pour une espèce de fumisterie. Mais en même temps...
Mais le type a l'air sincère dans sa démarche,
Je crois qu'il est sincère et le résultat, même si c'est dans cette fumisterie, c'est abouti.
musicalement, c'est grandiloquent, mais c'est bien fichu, quoi.
Et
je veux dire, les références cinématographiques qu'il n'arrête pas de balancer, d'ailleurs, de Kubrick à Balamenti et tout, ben, elles sont bien présentes. Comme tu disais, ça pouvait être la BO d'un film, ça pourrait très bien fonctionner en tant que tel, quoi.
Oui, mais voilà, est-ce que ça fait un album
c'est aussi la limite.
De pop, c'est la limite du genre, je trouve. Je ne sais pas, toi.
Oui, oui,
t'as
non.
T'as pas l'air inspiré, toi.
Non, je suis un peu extérieur à ce disque et à ce débat. c'est vrai que cette histoire de copinage, c'est dérangeant. Et cette histoire de battage médiatique autour du personnage, je trouve que c'est dérangeant. Tout le monde sait, par exemple, qu'il est copain comme cochon avec Pierre Sankowski. Sankowski s'est touché dans Les Inrock sur le disque. Moi, ça me pose un problème, quoi, que quelqu'un d'autre chronique ce disque, quoi. C'est son super pote et tout ça. Et c'est la chronique qui circule partout sur le net. Enfin, ça ne va pas.
Oui,
il y a un vrai problème éthique, là, justement. On y revient, Olivier.
On y revient.
Jusque dans Spring Breakers.
Tu parles d'éthique, toi.
Oui, tout à fait. Allez. Après, moi, quand je mets le disque dans mon lecteur, ça, je m'en fous, quoi. J'écoute le disque et j'ai la vie que j'ai. Et la vie que j'ai, c'est que j'aime pas ce disque. J'ai pas de problème avec la pop baroque ou surorchestrée, mais je trouve qu'il faut vraiment être doué, quoi. Je pense à quelqu'un comme Neil Hannon de Divine Comedy, par exemple. Effectivement, Anthony and the Johnsons ou un groupe comme les Irrepressibles. Ici, j'ai l'impression que si Game of Thrones est une série bourrine, alors Woodkid, c'est un mélange de Bulldozer, de Rue Compresseur.
Je te laisse la responsabilité de tes paroles.
Voilà. Donc je n'aime pas ce disque, c'est trop, quoi. C'est juste trop.
Et ce petit personnage chétif, un peu rejeté de la classe, comme ça, c'est quand même intéressant.
C'est censé être un homme d'image, ce type. Tu vois, il fait des clips, etc. Moi, je trouve que les clips qu'il fait pour lui-même, le visuel de son disque et tout ça, je trouve ça vraiment très laid, quoi. Très laid, pardon. c'est un vieux fond du sud de la Belgique qui a
sorti. Il brasse Hitchcock, il te brasse un peu tous les... Mais d'une manière un peu...
Tu vois, c'est un mec en armure grisâtre avec des...
C'est un univers qui rappelle un peu les photos que tu peux avoir dans des salons de mauvais goût, comme ça, des grandes photos avec des contrastes très aigus. Et c'est pas très abouti artistiquement, c'est pas très recherché.
Salons de mauvais goût, on va encore nous traiter d'élitistes sur les forums.
Bon, il y en a quand même qui ont aimé ça. Oui. On reconnaît, il y a des très bons morceaux qui fonctionnent, qui ont leur place sur Pure FM, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est... Et il n'en peut peut-être rien, ce garçon, donc on lui fait un procès qu'on ne devrait pas lui faire à lui, mais ça prend des proportions que ça ne mérite pas. Ça reste un disque de pop d'un artiste qui fait son premier album.
Mais c'est un disque de beaucoup... pop ou c'est la bande-son du film 300, enfin, tu vois, moi, quand j'écoute le truc, j'ai ça pas compte, l'impression d'écouter de la pop indépendante.
C'est un
artiste
pop qui veut faire la BO de 300. Okay. Ça, parce que ça reste, ouais, au niveau des ambitions, ça ne va pas plus loin que de bons morceaux pop, quoi, je trouve...
Et avec un medley d'influences diverses et variées au niveau de l'image, au niveau du son, on a l'impression qu'il brasse un peu tout ce qu'il a nourri pendant sa jeunesse et puis dans l'époque actuelle aussi.
Dans une interview récente, il expliquait bien que la musique aujourd'hui, ça n'est plus que du son, c'est du son et de l'image. Mmh. Et je trouve qu'ici, on tombe un peu dans la limite du genre où on est d'abord dans l'image... Mmh. Et après, on est dans le son qui vraiment a parlé, a chroniqué cet album et a parlé de cet album.
Au départ, c'était un clip, Iron, c'était voilà, un clip, exactement. Et il voulait faire la musique pour accompagner le clip. Et puis finalement, il est parti sur un album. Donc c'est vrai que cette essence visuelle, elle est présente vraiment au cœur du projet, quoi.
Bon, petite note sur 10, ben moi je lui mets 6 ou 7, 6,5.
Et toi ? 3 bulldozers.
Je te laisse la responsabilité. Moi, je vais mettre un 5 travailleurs. On lui donnera un deuxième album pour voir ce que ça donne.
Un 4.
Moi, 6.
Bon. Eh bien, alors, deux choses à noter pour en finir avec Woodkid. Il sera en concert au Nuit Botanique avec le Mons Orchestra. Ce sera le 5 mai prochain. Et ensuite, Julien Broquet a parlé de ce disque dans nos pages. Il lui a mis 4 sur 5. Ouais,
très enthousiaste.
Oui, il a surkiffé. Et il a écrit que c'était, je cite, « classe, point ». Somptueux, point, bouleversant. Enfin, on va terminer avec une BD Last Man, plus précisément. C'est un manga à la française. Plus précisément encore, c'est un shonen. Je prononce bien ? Un shonen ?
On va encore être plus précis que ça.
D'accord, plus tard. Enfin, en tout cas, c'est un livre qui s'adresse principalement aux ados de type masculin. Son premier tome est sorti chez Casterman dans leur collection Gents. KSTR, avec à la barre un trio de stars, en tout cas de presque stars, Balak, Michael Sanslaville et Bastien Vivès, le Bastien Vivès, celui qui fait vendre des camions, que dis-je, des méga camions de BD. Ceci, c'est un projet multiple et protéiforme. On devrait sans doute bientôt assister à la sortie d'un jeu vidéo, Last Man. C'est en tout cas un drôle de machin. avec un petit garçon qui s'inscrit à un tournoi de lutte dans une ville imaginaire, à une époque non moins imaginaire. On ne sort pas vraiment de Game of Thrones, hein, aujourd'hui. Et qui va se voir flanqué d'un coéquipier adulte, Richard, super fort, qui va les emmener très très loin. Adrienne qui vit avec sa top biche de mère boulangère, dont on imagine qu'elle s'acoquinera tôt ou tard avec le fameux Richard. Au fil des bastons, on découvre des personnages attachants, un humour assez ravageur et des dialogues ultra contemporains dans des décors très datés. Petit exemple, Adrienne qui dit « J'ai pas réussi à gagner un round depuis le début » et Richard qui lui répond « C'est normal Adrienne, tu te bats comme une quiche. » C'est drôle. Bon, toi Olivier, tu l'as mis carrément 5 sur 5.
C'est vrai, j'ai fait ça.
C'est incroyable, ça n'arrive jamais ce genre de choses.
C'est très rare, mais oui, moi je suis très enthousiaste autour du projet et de la manière, tu l'as très bien résumé. Et donc, pour être précis, donc c'est un manga à la française, c'est un shonen donc, qui s'adresse plutôt à un public plutôt masculin, plutôt adolescent, et c'est un neketsu. Donc c'est un canevas scénaristique qui correspond à certains types de mangas, comme One Piece, comme Naruto, donc c'est vraiment du neketsu.
Dragon Ball.
Dragon Ball, attention, je l'ai noté, Dragon Ball c'est un peu un pantsu, c'est-à-dire c'est un shonen avec un esprit comique. Ici ça ne se veut pas là, donc pourquoi on met, au lieu d'avoir une top biche comme tu as dit...
Ça, c'est très comique pourtant, non?
Ah, ici c'est de l'humour, mais ça se veut relativement réaliste par rapport au combat, par rapport aux enjeux. Voilà, les...
Voilà,
on les fait tous petits, je trouve, avec des grands yeux, ici c'est pas le cas. Il y a le trait quand même... sur le premier tome qui est proche de Vives.
Donc, non, tu n'es pas d'accord.
Je connais ton histoire de petit schtroumpf avec de grands yeux.
Bah, mais tu ne connais pas Tortue Géniale dans
Oui, mais complètement. Mais ici, il y a quand même, tu vois, les combats, ils appellent quand même le vent, etc. C'est pas super.
Au frère Bogdanov. Voilà, au frère Bogdanov. Voilà, et donc, c'est ça qui est intéressant.
Voilà.
Alors, on va avoir droit à plein de surprises par la suite. Ici, il y a un tome, il faut préciser qu'en fonction du succès, ils en prévoient soit 12, soit 58. Donc ça peut être une saga énorme qui va durer.
Le succès, justement, tu sais comment ça se vend ?
Ben, j'avais sondé des libraires au tout début, ils me disaient que ça démarrait doucement. Il faut bien comprendre que pour Caster et Casterman, il y a beaucoup d'enjeux autour de cette série. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le résumer un peu, la bande dessinée franco-belge est un peu à la croisée des chemins, ils se cherchent un peu. Les séries telles qu'on les faisait depuis 15 ou 20 ans, ben, ça ne fonctionne plus. On se rend compte que les derniers 13, que les derniers Largos, ça ne fonctionne plus comme ça a fonctionné à 15 ans. On se cherche beaucoup, les comics fonctionnent bien, les mangas ont tout bouffé pendant 15 ans, donc... Il se cherche. Et ici, c'est le premier exemple de vraiment un manga à la française. On peut vraiment parler de manga à la française qui, a priori, fonctionne parce qu'il garde le meilleur des deux. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment dans les codes qui fonctionnent auprès du public adolescent et fan de ça. C'est des combats, c'est des enjeux relativement simples, c'est des personnages très manichéens. Ça fonctionne. Une mise en scène qui est typique du manga avec des lignes de fuite, du noir et blanc, etc. Et en même temps, il y a un esprit français qui est conservé là-dedans. Tu l'as dit, avec les dialogues essentiellement de Vives, qui sont vraiment excellents, qui font partie de sa patte, c'est très contemporain. Mmh. Il y a cette ambiance médiévale plus européenne. Alors, il n'y a pas des œufs de dragon ici, on reconnaît vaguement les dinosaures dans les coins, dans le décor. Et surtout...
Le Richard débarque quand même à moto.
Hein. Donc, tout à fait, voilà. Mais il y a des choses qui ne vont pas soulever. On ne sait pas trop dans quel monde on se trouve. Je pense que les auteurs romains ne savent pas trop. Ils l'ouvriront s'ils doivent le continuer. Ça fait partie... du jeu qui est autour de ces séries-là. Et il y a un côté où les personnages sont très sexués, concrètement à ce qu'on a dans les mangas, les vrais mangas japonais. Ici, on l'a dit, voilà, le personnage féminin est très féminin, justement. On sent qu'il va y avoir des attractions sexuelles autour des personnages, qu'il va y avoir un ton un petit peu adulte et un certain esprit français, comme je disais, qui émerge autour de ça.
Et donc, cet esprit français, sous moi, c'est aussi l'humour.
Complètement, complètement. Qui est dans les dialogues, qui est dans un jeu, vraiment, c'est au cut, c'est presque du... Du one-man show comme ça, c'est vraiment du dialogue comme ça qui fonctionne très fort. Et donc, l'intérêt ici de la série, c'est comme tu l'as dit, il prévoit de faire beaucoup de tomes, on prévoit si ça fonctionne à dessin animé, on prévoit des stickers, on prévoit des pages Facebook.
Oui, mais il y a des autocollants dans le...
Voilà, on prévoit des webtoons, on prévoit exactement comme le font les Japonais, une vraie franchise autour de ça. Donc, les enjeux sont importants parce que ce serait le premier gros projet du genre mené par une maison française, Casterman, qui, rappelons-le, faisait aussi Tintin. Donc, les enjeux sont importants. Alors, ça démarre, ils en ont sorti 40 000 pour être précis, ce qui est énorme pour un premier album. Aujourd'hui, dans la BD franco-belge, on a plutôt tendance à réduire.
40 000,
ce qui est beaucoup pour un premier tirage. Ce ne sera pas assez pour continuer. Donc, c'est clair qu'ils vont mettre beaucoup de moyens de promotion. Vous allez dans les librairies, vous avez des présentoirs partout, donc c'est très présent. Voilà, ils en ont sorti 4 différents. Mais l'intérêt, c'est pour ça que je reste enthousiaste, c'est que ça fonctionne. La ligne de Caster, c'est dire que ça tabasse. Moi, je trouve que ça tabasse. Ça fonctionne, on s'amuse et j'ai envie de lire le deuxième album. Quoi. Tu le sors en te disant, bon. Où est la suite, que ça vienne, et ils prévoient d'en sortir à peu près tous les 3 mois. comme les studios japonais.
Et toi, Isaline, est-ce que tu liras le deuxième album?
Oui, à fond, ce que j'allais dire. Moi aussi, j'ai très envie. J'ai passé un super bon moment avec le premier. Une sorte de plaisir très régressif. Moi, j'avais un peu l'impression de me retrouver dans l'excitation devant les combats quand j'étais petite devant Dragon Ball Z. Et puis, l'humour d'un Nicky Larson, ce mec complètement macho, Richard Aldana, qui m'a vraiment fait hurler de rire. Alors oui, en plus, ce que je trouve génial avec ce genre d'album et avec Vives, par exemple, c'est qu'on en est enfin à un moment où les créateurs vont avoir les mêmes références que nous, quoi. Je me disais, bah oui, ça c'est mes références, quoi, de quand j'étais petite. Et c'est avec ces histoires d'autocollants, mais c'est les albums Panini. Moi, j'ai décollé les autocollants, je les ai recollés. Et j'avais un peu ce truc super régressif de quand j'étais petite.
Tu faisais Candy au Capitaine Flamme, non?
Et ce que j'aime vraiment dans cette BD, c'est que c'est une BD qui se prend pas au sérieux. Je trouve c'est vrai que tes dialogues sont complètement irrésistibles. J'avais noté aussi cette référence-là. Et puis aussi, ouais, ce côté justement Aldana qui débarque sur sa moto, on sait pas trop. Alors ça aurait pu être un truc un peu lourd, espèce de combattant qui vient du futur, ça aurait pu être très appuyé, quoi. Voilà, on sait pas. En fait, là, c'est juste ironique, quoi. Il a juste la monnaie qui convient pas à son époque, il a juste des mots un vocabulaire qui fonctionne pas, et je trouve que c'est très drôle. Il y a un truc, en fait, super parodique, en fait. C'est un petit peu de la BD d'humour, un petit peu de la BD d'aventure, un petit peu de la BD cul, on mélange tout ça, et en fait.
C'est intéressant, hein. Ils connaissent les codes, comme tu dis, c'est leur génération, ils ont avalé, ils ont fusionné, ils ont mangé du manga comme ils ont mangé du franco-belge quand ils étaient gamins.
Au niveau de la dynamique du dessin, c'est assez génial, hein, avec le trait assez minimaliste, il arrive à créer des scènes qui explosent et qui sont très percutantes. Et donc, quand il n'y a pas l'humour, on est complètement pris, comme tu disais, dans le jeu, dans le visuel. Je ne sais pas si tu voulais.
Ben, oui, c'est parodique, mais ce n'est pas que parodique, quoi, je trouve. Non, c'est ça qui est vraiment bien. C'est un peu ce que vous suggériez tous les deux. Ça fonctionne au premier degré, c'est-à-dire qu'il joue avec les codes tels quels. Moi, je dis que c'est du Dragon Ball à la Vives. Hein. Toi, je vois que tu mets des nuances, mais.
Enfin, bon, bref. Moi, je trouve que c'est très Dragon Ball aussi. Voilà. Mais c'est plus notre génération, de toute façon.
Non,
mais
c'est Dragon Ball, sauf que, bon, si tu dis ça à un vrai fan de manga, comme d'autres fans d'autres genres, ils vont te dire non, pas du tout, c'est pas du tout.
C'est pour ça que je te laisse nuancer l'affaire. Mais donc je trouve que ça fonctionne super bien au premier degré, ça fonctionne super bien au deuxième degré, voire au troisième degré. Donc ça veut dire qu'il peut en même temps se permettre de faire dire au personnage « ta mère est bonne hein ». Il dit ça dans la BD. En même temps, être super émouvant par moments. Et en même temps, nous filer des sortes de guillis au ventre d'excitation comme ça avant les combats. Moi, j'étais excité comme un gamin. Et c'est vrai que je me retrouvais comme le mercredi après-midi devant un club Dorothée où on s'enfilait des Dragon Ball et des Chevaliers du Zodiac où il passait 15 épisodes dans la maison d'or du Sagittaire. Il y avait 12 maisons d'or et la princesse Athéna pouvait mourir 50 fois. Et on était accro. Et moi, j'en peux plus de lire le deuxième album.
En filigrane, ça joue quand même sur des codes et les grands mythes du bien, du mal, du faible et du fort, qui est un peu abruti, mais le faible qui est aidé par le costaud qui est belle gueule. Enfin, donc c'est des espèces d'articulations comme ça bien établies et qui sont assez excitantes parce que c'est très narratif, évidemment.
Ouais. Et ce petit Adrien est vraiment touchant. Oui, quoi. Je trouve qu'il arrive tellement à le... Ouais.
Comme tu dis, ils arrivent à faire de l'émotion, à faire du second degré, à faire du premier degré,
ça.
À vivre.
On a tous les niveaux.
Quoi. Ce qu'il faut quand même dire par rapport à l'album, c'est qu'on met tout le temps le nom de Vives, c'est nous aussi en avant.
Qui est coloriste.
Hein, il est crédité comme coloriste du premier.
Alors qu'il y a trois pages de couleurs.
C'est un peu flou quand même ce qu'ils ont fait. Dans...
Voilà, donc clairement, on utilise Vives comme appât du consommateur pour ne pas freiner ceux qui d'habitude ne lisent pas de manga. Et on lit dans plein de critiques, c'est vraiment intéressant dans la démarche, des gens qui disent d'habitude je ne lis pas de manga, mais je lis du Bastien Vives, et donc j'ai bien aimé Last Man. Donc ils arrivent à ouvrir des portes et des ornières qu'il y a sur les genres, c'est très codifié.
C'est aussi un peu partie des petits clins d'œil qu'eux font mettre dans le projet, comme les vignettes autocollantes et tout. J'ai l'impression que c'est trois grands gamins qui s'amusent et qui placent, je crois qu'il y a pas mal de références, même personnelles à eux, qu'ils ont été glissés à gauche et à droite.
Mais c'est ça qui est intéressant. Qui sont faits dans les dernières pages.
Mais ce qui est pas mal aussi, c'est que ça reste un truc très indépendant, très indé, mais qui est malgré tout hyper marketé, comme tu l'expliquais, les enjeux sont énormes, mais on le sent pas trop et c'est pas agaçant parce que tout est bien pensé et qu'ils ont une grande liberté jusque dans les trucs collector avec apparemment des couvertures qui sont différentes, certaines dorées, mais il y en a qu'une dans tout le tirage. Voilà. Ben voilà, ils jouent là-dessus et c'est assez génial.
Je crois qu'ils s'amusent en le faisant, on le sent. On sent qu'ils prennent plaisir à faire ce projet.
Moi, c'est vrai que nous aussi, on s'amuse.
Mais en lisant la BD, moi, je me posais la question, c'est peut-être une question qu'on a pu se poser avec les autres BD de Bastien Vives. Bon, là, il n'est pas tout seul. Mais est-ce que Vives, ce n'est pas un peu le Sfar d'il y a 10 ans, quoi? C'est-à-dire qu'il peut faire investir tous les domaines de la BD. Il est hyper talentueux. C'est toujours super bien, quoi qu'il fasse. Et moi, la semaine, j'ai un peu le sentiment que ça pourrait devenir une sorte de nouveau donjon. Donc cette série de medieval fantasy de
qui était une des premières à s'inspirer des manières.
On pourrait s'imaginer qu'ils vont faire une sorte de un spin-off avec la, je sais pas, la jeunesse des personnages, et puis une série avec Adrian qui est vieux. Enfin, moi, ouais, je suis preneur, quoi. Je trouve qu'il y a,
il y a
vraiment.
Des possibilités d'extension.
Ouais, ils ont ouvert un truc qui est potentiellement quasi infini. Je trouve ça, c'est génial.
On va dépenser nos sous, je pense. Bon, tu lui mets combien sur 10?
9.
Ah ouais, carrément.
8-9.
Moi, je vais être cohérent, j'ai mis 5 dans le magazine, donc je vais mettre 10. C'est vrai que ça paraît un peu, mais. On va mettre 9,5 pour arranger.
Moi, je vais mettre 8.
8 en attendant la suite, je monterai peut-être à 9.
8 aussi. C'était donc la semaine de Bastien Vives, Michael Sonnaville et Balak, publié chez Casterman. On va, comme à chaque fois, terminer l'émission avec un petit tour de table de nos coups de cœur des derniers jours. Je vais commencer, comme d'habitude, avec une pièce de théâtre qui s'appelle La réunification des deux Corées. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a eu l'occasion de la voir.
J'ai vu que tu as parlé sur Facebook.
Ah oui, c'est incroyable. C'est signé Joël Pommerat. Joël Pommerat, c'est un peu l'auteur de blockbusters théâtraux pointus. Voilà, je ne sais pas très bien comment le présenter. En tout cas, c'est un type qui écrit super bien. Cette pièce est probablement la pièce la mieux écrite que j'ai été voir de ma vie.
Le Cendrillon est resté.
Je ne l'ai pas vu, malheureusement. Ah, mais oui, mais là, c'est complètement incroyable. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec la Corée, ça a à voir avec l'amour. Et c'est une cinquantaine de petites scénettes, enfin, pas une cinquantaine, plutôt une vingtaine de petites scénettes, de petites nouvelles, comme ça, d'amour malade, d'amour déviant, de rupture amoureuse, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est les mêmes comédiens, mais ils changent de costume, ils changent de personnage. C'est souvent très glauque. Il y a des gens qui sont sortis de là quand même solidement mal à l'aise. Mais c'est vraiment incroyablement beau et c'est mis en scène de manière époustouflante avec un jeu de lumière et surtout d'ombre dans lesquels sont tapis les décors et les personnages qui surgissent comme ça au moment où on s'y attend le moins.
Et les spectateurs sont là
sont en gradin, oui, c'est ça, l'un en face de l'autre, comme pour un match de tennis où on compte les points finalement. Enfin bref, une énorme claque, La réunification des deux Corées. Malheureusement, la pièce ne tourne déjà plus chez nous. Mais j'espère, oui, à mon avis, elle reviendra, mais elle va partir au début avril. Au Canada, en Suède, en Roumanie, un peu partout. Moi, je dis que ça vaut quand même le déplacement. Enfin, si j'étais vous, je prendrais un petit avion Ryanair pour aller en Suède. Enfin, en tout cas, si ça ne revient pas chez nous l'année prochaine, je m'immole par le feu. Je vous le dis déjà. Voilà, c'était la réunification des deux Corées. Nico.
Je voulais parler d'un disque, en fait, une fois n'est pas coutume. Un groupe canadien qui s'appelle The Besnard Lakes, qui a sorti un album qui s'appelle Until In Excess Imperceptible UFO.
Tu parles bien anglais.
Oui, on n'est pas obligé de retenir. J'essaie d'être accessible, tu vois.
C'est pas
C'est un groupe, on ne se moque pas des
c'est
accents.
C'est pas lui.
C'est un groupe canadien donc, qui, depuis quelques années, marie de manière assez moderne, et c'est assez étonnant, du rock psychédélique des années 70 avec une sorte de pop 60s californienne à la Beach Boys, comme ça. C'est assez génial, c'est vraiment du miel pour les oreilles. Et depuis le grand retour discographique de My Bloody Valentine, c'est pour moi le plus beau trip sonore de l'année. Voilà. Ça s'appelle donc The Besnard Lakes, le groupe, et c'est de La Balle.
Ah. Voilà. À toi, Olivier.
J'ai un gros livre, mais je vais le faire court. C'est de nouveau une BD. Ça s'appelle Congo, avec un K. C'est de Tom Tirabosco, qui est un auteur suisse, et c'est vraiment un grand album. En fait, ça raconte le voyage de Joseph Conrad, avant qu'il s'appelle Joseph Conrad, et qu'il écrive le fameux « Au cœur des ténèbres ». C'est le récit d'un voyage qu'il a fait, lui, à la fin du XIXe siècle, sur le fleuve Congo, et qui clairement va inspirer ce que deviendra son roman « Au cœur des ténèbres », qui a lui-même inspiré plein d'autres choses. Évidemment, on peut penser à Apocalypse Now, tout le monde connaît cette adaptation. Et donc voilà, c'est magnifique, graphiquement c'est très très impressionnant, c'est des techniques en noir et blanc très compliquées où il dessine au crayon, il l'encre de l'autre côté, enfin il y a des techniques de dessin tout à fait particulières, c'est une ambiance étouffante, dense, c'est comme au cœur des ténèbres, c'est on s'enfonce dans la jungle en même temps qu'on s'enfonce dans la folie des hommes, c'est une critique du colonialisme très forte, la nature humaine aussi, et voilà, c'est d'abord un plaisir graphique, je te le prête, elle me prend au piège, la garce, mais je te le prête.
Merci.
Voilà.
Isaline, aussi un bouquin.
Oui, je suis venue avec un livre parce qu'on n'en a pas encore parlé aujourd'hui. C'est le Man Booker Prize 2011, un prix sans doute le plus prestigieux prix de littérature anglaise actuelle. C'est Julianne Barnes qui l'a eu pour Une fille qui danse. C'est un roman absolument magnifique, très court, très, très vertigineux. Alors c'est en fait un roman, on peut dire, assez classique, hein. C'est vraiment les grands marronniers de la littérature. C'est l'histoire d'un triangle amoureux, c'est une réexploration un peu mélancolique et élégiaque d'une jeunesse qui est passée par un homme qui s'en rappelle les détails. Et pourtant, ici, il y a vraiment une véritable intrigue quasi policière en fait, qui tient tout le livre et qui dévoilera en fait, qui se dévoilera vraiment dans les toutes dernières lignes du livre. Je trouve que c'est un livre absolument magistral sur le remords, un très très grand livre sur voilà, qu'est-ce qu'on a été une fois que la vie est plutôt derrière nous que devant nous, sous quel mensonge on s'est planqué, sous quelle fausse image de soi on s'est construit, et comment surtout on a pu vivre pendant des années en passant à côté de choses qui en fait rééclairent toute notre vie quand on les apprend. Voilà, c'est vraiment un livre assez bouleversant, et je trouve que il méritait bien ce prix. Julien Barthes, il faut savoir qu'il avait déjà concouru 4 ou 5 fois pour ce prix, et donc là il vient enfin de l'avoir, et il le méritait. Voilà, c'est chez Mercure de France.
Merci.
Et chef,
un livre aussi, un roman également, Impur de David Van, que tout le monde connaît plus ou moins ou entendu parler.
Tu avais voulu nous imposer autour de cette table.
C'est possible. Oui. Bon, c'est Sequoia Island qui l'a rendu célèbre, avec cette histoire d'un père qui emmène son fils sur une île en Alaska, et ça tourne au drame assez étouffant. Il avait récidivé avec Désolation en continuant sur la sphère familiale, mais cette fois-ci plutôt sous l'angle du couple. Et puis ici, il revient avec Impur et continue à labourer le même terrain, mais cette fois-ci sous l'angle de la mère-fils. Une mère qui vit donc seule avec son fils dans une propriété un peu décatie. Une mère qui étouffe complètement son fils, qui a 22 ans et qui n'a jamais réussi à sortir des griffes maternelles. Et ce couple va s'enfoncer petit à petit dans la folie avec une série de personnages familiaux qui tournent autour. C'est une famille détraquée. Et ça va, comme souvent chez lui, basculer un moment dans le dramatique. Et aller de plus en plus loin, et ça fonctionne très bien. Alors on a moins l'effet de surprise si on le connaît, si on l'a lu précédemment, mais ça reste super efficace, et c'est un tableau familial qui fait froid dans le dos.
Tu nous rappelles le titre et l'auteur ?
Impur, donc David Van.
Merci Laurent.
Avec plaisir.
Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, pour ceux qui nous regardent, qu'on existe aussi en audio sur iTunes et sur Podomatic. Et pour ceux qui nous écoutent, qu'on s'agite sur YouTube si vous tapez Focus Store dans la barre de recherche. Lisez-nous aussi, surtout dans le Focus, chaque semaine avec le Vif Express. Aimez-nous sur Facebook, aimez-nous tout court. À bientôt, salut, merci tout le monde d'avoir participé à cette émission.
Merci Myriam.
Et on se retrouve dans 3 semaines. Ah, on va prendre des petites vacances. Hein.
C'est vrai.
Ressourcer.
Ciao.